Je figurais pas sur le programme que j'ai reçu personnellement. Et donc, je me fie à ce programme et voilà, c'est la seule raison. Sinon, j'aurais été là, aucun problème. Donc, nous avons un débat sur la rime et la raison, ou rime et raison, si je ne me trompe.
C'est le retour de la rime.
C'est le retour de la rime. Bon. Ben, d'ailleurs, c'est un très bon titre, parce que le retour de la rime, c'est presque un pléonasme, puisque la rime est un retour. C'est un principe de retour. Et donc, c'est deux fois le retour. Donc, c'est un débat sur le pléonasme. Faites confiance au Belge Jean-Pierre Verheghen pour détourner le débat le plus vite possible. Donc, à ma gauche, Souleymane Diamanka, que vous avez, certains d'entre vous, entendu hier dans la salle Maupertuis, qui est malien, qui est sénégalais. Ça n'a pas été précisé hier. Et c'est vrai que qui est sénégalais et qui a très bien parlé d'ailleurs justement de la rime et des langues. Il y a Julien Barré qui a fait, lui, et à qui on va donner la parole très vite, un ouvrage publié à l'Harmattan, le rap ou l'artisanat de la rime. Comme c'est l'Harmattan, je me dis dans le fond qu'ils ont l'habitude de publier des études universitaires. Au départ, c'est quoi? C'est une maîtrise, un DEA, un sujet de thèse? Juste pour préciser.
Une maîtrise que j'ai écrite que j'avais faite en 2001, jeune, et que j'ai réécrite et refaite en 2008.
D'accord. À quelle université c'était?
À la Sorbonne, c'est la stylistique du rap français, c'est l'étude des rimes.
Paris 3, Paris 4?
À Paris 4.
Paris 4. D'accord. Très très bien. Et puis, notre lauréat du prix Robert Ganzo de cette année, entre autres qualités, entre autres choses, Jean-Pierre Verheghen. Et qui, lui, est aussi bien un poéticien qu'un poète. Il est véritablement quelqu'un qui réfléchit au langage qu'il utilise. Alors voilà. Donc la rime. Ben, je vais peut-être passer très vite la parole à Julien Barré. Et puis au fur et à mesure, on va comme cela de faire un peu sinon l'historique, du moins le constat sur la poésie rimée ou poésie non rimée. L'artisanat de la rime, c'est le titre, le deuxième titre de votre livre. Est-ce que c'est pour vous l'essentiel dans le rap ou dans le slam d'ailleurs, parce que dans ce domaine-là, et rap et slam sont vraiment voisins, il n'y a pas grande différence. Hier, je ne sais plus si c'est vous qui avez fait la différence sur le contenu, ou bien si c'est votre ami Paul Seambola et qui l'a dit. Il a raison. La grande différence, c'est, me semble-t-il, sur l'aspect pratiquement sociologique ou politique même.
Non, je ne pense pas.
Bon, c'est bien. Le débat est lancé. Alors, j'ai oublié de dire que nous étions le 13, juillet, et qu'il était 11h. C'était 13 juin, et qu'il était 11h du matin. Voyez-vous, je suis à peine réveillé aussi, en plus. Qu'il y a un an que la Belgique n'a pas de gouvernement, effectivement. Et qu'on est en 2011. Je pense que la technique est contente de toutes ces précisions. Pardon.
Vous avez raison, la rime est une caractéristique du rap et du slam. Juste, le rap est un genre musical. Et le slam, ça vient de schlem, c'est un tournoi, une scène ouverte, donc plutôt une forme de discours. Mais en fait, tout peut être slam, n'importe qui peut arriver. Une grand-mère réciter des poèmes sur les fleurs des champs. Un jeune rappeur faire du freestyle, une improvisation, un bobo, un lascar, enfin n'importe qui peut parler, il n'y a pas de genre. Après la rime, je pense que c'est la poésie orale dont on voit le retour aujourd'hui à travers le rap et le slam qui en sont les avatars contemporains et qui font qu'aujourd'hui on entend la poésie. Elle se caractérise à mon sens par la rime et le rythme. La naissance de la poésie a dû coïncider avec la naissance d'un rythme, d'un battement de mesure et de rime qui devait, à peu près, à mon avis, dans toutes les sociétés du monde, permettre la mémorisation de textes de savoir ou autre. La rime j'étais pas là malheureusement hier à la soirée que vous avez faite et dont on m'a dit qu'elle était géniale, enfin plutôt à la matinée, où vous avez, semble-t-il, rappelé l'historique de la rime.
En France simplement. Et je suis pas remonté très haut.
Donc j'imagine que vous avez dit que avec il y a le romantisme, ensuite le surréalisme. Enfin aujourd'hui, dans une poésie postmoderne, il y a le vers libre, il y a plus de rime, il y a plus de rythme, de maître régulier. Je pense que pour qu'une poésie soit entendue, et comme vous êtes tous les deux des poètes pas traditionnels, puisque vous avez une forme poétique d'inspiration aussi bien régionale que un travail sur les mots. D'un côté les poètes, de l'autre les slameurs, si je puis dire. Il y a une différence, peut-être, c'est que les slameurs comme les rappeurs utilisent des rimes tout le temps. Des rimes et les plus riches qui soient. Comme les grands rhétoriqueurs à la fin du Moyen-Âge, avec des structures comme les troubadours de Tennyson, de joute oratoire, le fait d'avoir un battement de mesure dans le rap et des maîtres réguliers, alexandrins, des cassyllabes dans le slam, et des rimes, fait que le propos est martelé et rendu audible pour l'auditeur, et c'est la poésie orale. Et c'est ça qui fait qu'ils sont entendus.
Je suis tout à fait d'accord avec cette définition, mais il faudra y apporter des nuances, si je peux me permettre. Oui, il y a une proximité évidente entre la rime et la mémorisation. Il est certain que l'intérêt de la rime, c'est un intérêt de mémorisation, et que d'une certaine façon, cela a dû coïncider avec la transmission à travers les âges de la mémorisation à travers les âges de la poésie. Oui, mais il y a des traditions qui sont totalement différentes. Et dans ce domaine-là, la France, d'une certaine manière, pour moi, est une exception. La France et peut-être les cultures méditerranéennes, c'est-à-dire qu'on a la poésie rimée en Espagne, poésie rimée en Italie également, mais dès qu'on arrive à l'Angleterre, par exemple...
C'est toutes les langues syllabiques qui ont la rime. Portugais, l'espagnol, l'occitan, le français.
Oui, mais on peut pas...
Et en anglais...
Alors là, si je me permets de ne pas être totalement d'accord, parce que les langues sont toutes, d'une certaine façon, syllabiques, et les langues sont toutes accentuelles, plus ou moins accentuelles. Et il y a des langues qui sont plus accentuelles que d'autres, ou du moins qui mettent l'accent qui mettent l'accent tonique au cœur de leur langue. Et je pense à l'anglais, en particulier, que je pratique. Et l'anglais n'est plus rimé, pourrait-on dire, en poésie, depuis quasiment le 18e siècle. Depuis le 18e siècle. Et donc, la tradition rimée française qui s'est éteinte, provisoirement, bien entendu, à la fin du 19e siècle, c'est vraiment tout à fait particulier. C'est propre à la France. Et si la rime en France s'est éteinte à la fin du 19e siècle, c'est sous l'influence de la poésie anglo-saxonne. Ça, c'est une chose que les traités de poésie, de poétique, ne disent pas. Je ne dis généralement pas, parce que ils ne veulent pas admettre que la grosse influence, en l'occurrence, c'est celle de Walt Whitman. Et c'est un Américain, et il y a eu du tirage entre les poètes français et les poètes, et Walt Whitman, poète américain. Et c'est
il y a le poème en prose aussi.
Oui, c'est vrai. Mais c'est l'irruption essentiellement du verset whitmanien, qui à la fin du 19e siècle, est recueilli par les symbolistes, par certains symbolistes, et qui va littéralement faire exploser, en quelque sorte, une rime qui était déjà usée. C'est ce que j'ai dit, je renoue avec hier, avec Mallarmé. Mallarmé disait, vous savez, la rime, surtout pratiquée par Victor Hugo, est une rime déjà fatiguée. Hugo a fatigué le vers, et donc, il accueille, contrairement à ce qu'on dit généralement, Mallarmé accueille le vers libre. Il accueille le vers libre, il ne le condamne pas, et il dit tout simplement, le vers alexandrin, il faudra l'utiliser simplement dans des circonstances tout à fait exceptionnelles. On peut le laisser se reposer, quoi. C'est un vieillard qu'on va laisser se reposer. D'où le titre de Roubaud en 78, La vieillesse d'Alexandre, quoi. L'alexandrin est en retraite. Et c'est vrai que les slameurs, et c'est là, et les rappeurs, et ça, c'est la chose assez intéressante, ont bousculé cette retraite.
Les slameurs, surtout parce que les rappeurs ont un battement de mesure qui permet d'assurer le rythme, le battement de mesure de l'instrumental, sur lequel ils peuvent, et c'est aussi, on dit, un trait de poésie moderne, c'est que la rime a éclaté, et c'est les structures internes du vers qui résonnent. Assonance, allitération, écho sonore, et la figure majoritaire du rap, c'est la paronomase. Mon 4-4 échappe de justesse à la justice. C'est une rime qui est moins attendue, dont la récurrence n'est pas forcément sur la fin du mot. Et par contre, les slameurs n'ont pas d'instrumental à l'origine, c'est un a cappella. À mon avis, ils sont victimes d'un double discrédit, les rappeurs. D'ailleurs, on invite peu de rappeurs, on a eu le concert d'Am Koulel. Les rappeurs ont un flow, une scansion, un débit particulier entre la parole et le chant, et ils ont des rimes d'une richesse et qui sont innombrables, des paronomases, des assonances, des allitérations, des échos sonores, c'est comparable à Bobby Lapointe. Donc, non seulement il y a cette musique un peu rugueuse, cette scansion fait qu'ils sont doublement inaudibles, à l'inverse des slameurs qui, pour moi, Grand Corps Malade, ça me rappelle les récitations de poèmes en CM1. Tatati tatata, tatati tatata, tatati tatata, tatati tatata. Pas de flow, pas de scansion, c'est monotone, monocorde, c'est de l'alexandrin, alors que dans le rap, on a le battement de mesure qui assure le rythme, qui permet non pas d'avoir la bête rime à la fin du vers, mais une multiplicité d'échos sonores à l'intérieur, et ça fait que c'est génial et qu'ils sont inaudibles.
Alors ça, c'est un jugement. C'est un jugement personnel. Enfin, vous avez raison objectivement.
Pour discuter, bien sûr.
D'une certaine façon, le pauvre Grand Corps Malade, il est en train d'en prendre plein la figure en ce moment. Il va encore être plus malade que d'habitude, et là, ou réellement malade. Mais attention de ne pas trop tirer sur lui. Je suis entièrement d'accord avec vous sur l'ambulance. Mais je pense que derrière le rap dont vous parlez, en parlant des allitérations, est le produit direct de la poésie anglo-saxonne. Saxonne et américaine, il est beaucoup plus marqué par l'accentuation sur les syllabes internes. Et quand on parle de la rime, nous en France, on pense tout de suite rime terminale, mais si je me réfère à nouveau à la poésie anglo-saxonne, il y a essentiellement des rimes internes. La première poésie anglo-saxonne du 7e et du 8e siècle, c'est une poésie qui ne rime jamais à la fin, mais qui rime avec internement, par allitération. Il y a le vers est divisé en deux parties, en deux hémistiches, en quelque sorte. Il y a trois accents toniques sur la première partie et deux accents toniques sur la deuxième partie. Et si vous entendiez quelqu'un qui dit aujourd'hui un poème du 8e siècle anglo-saxon, qui est le poème fondateur de la poésie anglaise, qui est l'histoire de Beowulf, d'où sont venues, toutes les Tolkien, ainsi de suite, à ce moment-là, vous diriez c'est du rap. C'est véritablement du rap. C'est
exactement. Et le rap retrouve le rythme de la langue que une tradition classique a aboli depuis le XVIIe siècle.
Sauf que au XVIIIe siècle, il y a le premier. Attendez, la chose qu'on oublie toujours également, c'est que le premier non-rimeur de la poésie anglaise, il s'appelle, excusez du peu, William Shakespeare. Et moi, je sursaute toujours quand je vois les traductions de Shakespeare en français, et Dieu sait qu'elles sont innombrables, parce que le vers de Shakespeare, les pièces, je ne parle pas des sonnets, les Français d'ailleurs de façon très intéressante, se réfugient toujours dans la traduction des sonnets, parce que là, le sonnet est rimé. Et chez Shakespeare, comme dans la poésie latine, méditerranéenne.
Chez Emily Dickinson, de la même façon.
Et donc, Shakespeare, toutes les pièces de Shakespeare sont en vers blanc. Et la question que je me pose, et que j'ai posée à Jacques Roubaud un jour, dans un dialogue que nous avons eu, il est certainement le poéticien le plus accompli de la poésie française à l'heure actuelle, et je lui ai dit, mais comment se fait-il qu'en France, il n'y a jamais eu de vers blanc? C'est-à-dire
des vers rythmiques. Il y a des récurrences rythmiques avec des iambes, des dactyles.
De vers réguliers, non rimés. De vers réguliers, non rimés. Parce que un autre nom de ce vers en anglais, c'est le décasyllabe rimé, non rimé. Ou le pentamètre iambique, non rimé. Avec une
iambique. Donc il y a des iambes qui sont une forme de rime rythmique et non pas phonétique. Qui sont en plus du décasyllabe. Il y a des iambes en plus.
Mais c'est la même chose en français. Vous pouvez faire scander en quelque sorte un vers de Victor Hugo avec les iambes, les trochées, les anapestes, ainsi de suite.
C'est moins sensible, les syllabes courtes et longues en français, elles sont relativement de durée égale. Alors que ce qui définit cette poésie dont vous parlez, c'est qu'il y a des dactyles et des iambes, c'est-à-dire une alternance de courtes et de longues, qui, comme en latin et en grec.
Alors ça, c'est un débat. Là, c'est un débat. Là-dessus, les gens sont pas totalement d'accord. Et c'est un débat intéressant, quoi. Mais c'est un débat qui devient un débat de technicien extrêmement pointu. Hein. Souleymane, qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce rapport à la rime? Est-ce que vous la pratiquez, de toute façon, la rime?
Je la pratique beaucoup.
Vous la pratiquez beaucoup? Et
c'est vraiment, c'est mnémotechnique, à la base. Quand je récite un texte, les rimes sont un peu comme des panneaux de signalisation pour savoir où j'en suis et pour pas être perdu au niveau de la mémoire. Et c'est vrai que les rappeurs ont beaucoup utilisé la rime pour son côté musical. Le fait qu'ils soient accompagnés de musiciens, tout ça, faire une phrase qui termine en az, la suivante en az, ça amène cette musicalité. Ensuite, ils se sont amusés beaucoup à faire des contre-assonances, que ce soit pas forcément la même syllabe à la fin, mais une syllabe proche. Et ils ont beaucoup utilisé aussi ce qu'on appelle les rimes multisyllabiques. Et par exemple, le pays des songes est derrière une grande colline, pour écrire, je me sers de la réalité comme d'un trampoline. Et c'est vraiment un côté métrique pour être dans la musique parmi les musiciens.
C'est toujours de la rime plate, quoi. C'est toujours, enfin, plate au sens, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle. Enfin, ça rime deux à deux, enfin, un à un, quoi.
Non, hein. Après, des gens comme Booba font des rimes croisées, tout ça.
Embrassées, il y en a?
Il y en a aussi, en fait.
Il y en a aussi.
Ce qui est bien dans ces disciplines, et dans le rap et dans le slam, on peut faire ce qu'on veut, en fait. Et dans le slam, encore plus, c'est pas vraiment un genre musical, mais le fait d'être a cappella, on n'est plus obligé de suivre la mesure musicale, on peut s'amuser à faire des alexandrins, mais les découper, ça peut être 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça peut être 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et s'amuser comme ça à utiliser l'alexandrin, mais le jongler à l'intérieur. Aussi beaucoup jouer avec les rimes internes, comme vous disiez.
C'est pas si fréquent que ça, parce que j'avoue que je n'ai pas une grande culture d'écoute du rap ni du slam, mais ce que j'entends, et je pense à ce que j'ai entendu hier, c'est quand même très souvent 6-6, quoi. J'ai dit c'est du béton, mais c'est vraiment, quoi. C'est carré, quoi. C'était du slam plus que du... Oui, semble-t-il. Enfin, m'a-t-il semblé, m'a-t-il paru, quoi.
C'est particulier parce que le slam, c'est difficile à définir. On peut pas dire...
Ah oui, ça transparaît dans tout ce qu'on dit.
Ouais,
c'est vraiment difficile.
Depuis toujours, même entre nous, même entre nous, c'est difficile parce que les gens parlent d'album de slam ou de slammer, alors que le slam, c'est juste un dispositif. C'est une tribune de libre expression où chacun peut venir dire.
Et théoriquement, au départ, c'est de l'improvisation, c'est de l'impro, non?
Au départ, c'est Schlem, comme a dit Julien, ça vient du concours. Et c'était juste, c'est Mark Smith qui a inventé ce style, entre guillemets.
À Chicago.
Voilà, dans les années 80 à Chicago.
Oui.
Pour ramener la poésie au peuple, que ce soit plus seulement dans des théâtres.
Mais est-ce que c'est pas des joutes oratoires au départ? Est-ce que c'est pas des joutes entre des poètes?
C'est ludique.
C'est un tournoi, donc.
C'est un tournoi. C'est comme au Moyen-Âge en France. C'est comme les jeux partis.
Voilà, comme les troubadours.
C'est comme les jeux partis. Les jeux partis, c'est à Arras, la ville que je connais bien. C'est au XIIIe siècle, un arbitre, parce que c'est très important, un arbitre qui donne un thème que ne connaissent pas les jouteurs.
Et c'est plus proche de ce qui a inspiré les jeux partis, qui est la Tenson Occitane, où il y a plus directement ce rapport agonistique, ce rapport d'affrontement. Et on a chez les Occitans les couplets unissonance ou dissonance avec une seule rime sur un seul couplet. Dans le rap, on a l'open mic, micro ouvert, ou le clash, ou la battle qui a été popularisée dans un film avec Eminem. C'est un tournoi improvisé, rimé sur un battement de mesure. Chacun a 3 minutes. Le slam, c'est plus cool, si vous me permettez cette approximation langagière. C'est simplement chacun vient 3 minutes parler et le public va voter en voilà.
D'accord. C'est ça. Donc ça se définit pas tellement.
Mais la joute oratoire est très présente.
Ça se définit pas tellement par la prosodie, mais beaucoup plus par la
performance.
La performance, quoi. C'est ça la grande différence entre les deux. Mais je vous ai interrompu alors que vous étiez encore
en train de dire.
C'est ce que vous étiez en train de
dire. C'est un contenant, en fait, le slam, où il peut y avoir des rappeurs. On peut pas mettre d'un côté les rappeurs, les slameurs. Rouda, qui a lu un très joli texte hier en alexandrin bétonné. Sur son nom, Brindy. Et en fait, il vient du rap. Ses textes, il est capable de les dire en musique, avec une scansion rythmée. Il est capable de les dire a cappella. Ça fait qu'il n'y a pas vraiment de différence entre un slameur et un rappeur. Oui. Un rappeur, du moment où il prend la parole sur une scène slam, c'est un slammer.
Oui.
Si je vous invite sur une scène slam à Paris, et que vous venez prendre la parole sur cette scène-là, à ce moment-là, vous serez un slammer. C'est pas une étiquette définitive.
Et alors, une question que j'ai envie de vous poser, je passe la parole à Jean-Pierre, c'est, dans le fond, est-ce que votre rapport à la poésie, peux pas dire classique, traditionnelle, à celle même que nous écrivons, la poésie écrite. Qu'est-ce que c'est? Vous la lisez, vous vous en inspirez, ou bien vous vous en détournez en disant, ah oui, ça c'est vieux, ça c'est, ça n'existe plus, c'était autrefois, c'est nous qui sommes aujourd'hui les poètes modernes, les troubadours, les jongleurs. Ou est-ce qu'au contraire, vous cultivez, en quelque sorte, je vais pas donner des noms de poètes français contemporains, mais, Qu'est-ce que vous me dites pour cela?
Ce que je vous dis pour ça, c'est que j'ai découvert la poésie écrite assez tard, parce que chez mes parents, il n'y avait pas de bibliothèque, tout était oral.
Oui.
Et j'ai un très grand respect pour tous ces auteurs-là que j'ai lus, auteurs anciens, auteurs contemporains. Et je retrouve chez Baudelaire, par exemple, des choses que certains poètes d'aujourd'hui peuvent rechercher dans la sonorité, dans les images, dans l'impact que peut avoir, nous on appelle ça des punchlines, c'est des phrases qui puissent exploser dans la tête de l'auditeur. Et en fait, je m'inspire un peu de tout ça, je respecte beaucoup, mais je trouve que la poésie naît des mots, et que vu que tous les mots existent déjà, tous les poèmes existent déjà, tous les contes, toutes les rimes équivoquées, tout ce qui est technique existe déjà, et c'est juste certains auteurs qui ont la chance.
C'est ce que dit Paul Valéry d'ailleurs.
Peut-être. C'est
tout est déjà dans le dictionnaire et dans la langue.
On en avait parlé.
Et je suis d'accord avec lui alors. Et
c'est. D'accord avec Paul Valéry, c'est bien.
Et c'est vraiment ça. C'est chacun a son parcours et on rencontre des choses techniques dans l'écriture mais qui étaient déjà là avant. Et dans mon rapport à la rime et à l'écriture, je cherche à rencontrer des choses comme ça.
Vous citiez Baudelaire, je ne sais pas si vous avez remarqué hier, lorsqu'on a fait la tournée finale, définitive, et que vous avez passé le micro aux 10 poètes qui étaient là, les poètes, j'ai envie de dire, classiques que nous sommes, Yvon Le Maine, Jean-Pierre Siméon et moi-même, très spontanément, on nous a demandé de dire un poème qu'on connaîtrait par cœur, et ça a été Baudelaire, 3 fois. C'est le plus rappeur, c'est le plus slammeur de tous les poètes de la modernité. C'est assez étonnant, quoi. On cite pas Hugo, mais on cite Baudelaire. C'est vraiment celui qui balance le plus, qui swing le plus dans
mais c'est les poètes du Moyen-Âge qui sont les plus proches des rappeurs.
Ah oui, bien sûr, mais alors
dans
le
livre que j'ai ici, que j'ai écrit, j'ai une thèse inédite. Je me suis rendu compte, puisque j'écoutais du rap toute mon adolescence, je vous donne une rime de Fab, je persévère, façon persévère, le faux devient vert et il en persévère. Qu'est-ce que c'est? C'est une rime équivoquée sur 3 mots assemblés ou 2, enfin homophonie totale entre 2 mots. Qu'est-ce que c'est la rime équivoquée? Ça a été inventé à la fin du Moyen-Âge par des poètes décriés dans la tradition littéraire française où prévaut l'esthétique qui est de Boileau, Malherbe, etc. Parce que c'était des poètes techniques, peut-être on vous a déjà fait ce reproche sans doute. Les rappeurs aujourd'hui, certains ne se rendent pas compte de la richesse phonétique qui les caractérise, d'autres peut-être à ce titre-là leur disent bon voilà c'est de la rime facile tout ça. Je pense en discutant aussi avec Souleymane avec qui on a fait un livre qui va bientôt paraître que les rappeurs, j'ai été journaliste pendant 3 ans dans des magazines de rap, j'en ai interviewé, n'ont pas conscience d'utiliser des rimes équivoquées. Dans mon bouquin je vous prends toutes les rimes, je vais pas vous faire la liste, mais toutes les formes de rimes qui ont été inventées par la rhétoriqueur, la rime dérivative, la rime annexée, la rime fratrisée, la rime sonnée, etc., etc. Toutes ces rimes se retrouvent chez les rappeurs, se retrouvent chez Souleymane Diamanka qui a fait du rap, ensuite du slam, qui va devenir un poète comme vous, sans doute. Je sais pas si je suis prophète, mais toutes ces rimes sont des rimes de la fin du Moyen-Âge. Par ailleurs, on retrouve, vous parlez du jeu parti ou de la tenson, cette joute oratoire qui est encore présente en Bretagne, au Pays Basque, en Corse, dans certaines îles de la Méditerranée. On peut avoir le griot africain, le majdoub, cette tradition de la poésie orale avec un rythme assuré par le battement de mesure et une rime. Ça, c'est le rap. Pour moi, il n'y a pas beaucoup de rapport ni avec Baudelaire, ni avec Rimbaud, ni avec la poésie de la modernité. J'ai l'impression qu'on retrouve une poésie première, comme si on avait eu le romantisme la caricature du poète seul face à lui-même, qui est désespéré, et son propos est incommunicable. Tout ça, avant ça, on a eu les règles classiques. Il fallait que les rimes soient pauvres, il fallait qu'elles soient bien séantes, etc. Le surréalisme fait tout voler en éclats. Et qu'est-ce qui reste aujourd'hui ? Du vers libre et plus de rimes. Aujourd'hui, le rap ramène le battement de mesure, le rythme et la rime. Et pour moi, c'est de la poésie du Moyen-Âge.
Oui, c'est une vision qui peut être tenue. Cela dit, moi, je serais beaucoup plus relativiste d'une certaine façon. Parce que deux choses. La première chose, c'est que la rime française, la poésie même du Moyen-Âge français, c'est très étonnant. C'est très étonnant parce que le français est héritier du latin. Or, en latin, il n'y a pas de rime. En latin, ce sont des quantités. C'est quantitatif. Ça, la poésie latine classique, et même de l'Empire, ne rime pas. On termine toujours par des dactyles. Dans l'hexamètre dactylique n'a pas de rime. Et, curieusement, quand on regarde la poésie latine du 7e siècle qui est en France, puisqu'on continue d'écrire le latin en poésie jusqu'au 12e, 13e siècle, et là, ça devient une poésie extraordinairement rimée. Il y a en particulier un poème sur les chauves, que je trouve absolument extraordinaire, mais comme j'ai été surpris là tout à l'heure, je n'ai pas pu l'amener, sinon je vous l'aurais lu en latin, qui est un poème extraordinaire, je voudrais que je puisse vous le montrer, qui est d'un certain Hucbald, qui était un moine de l'abbaye de Saint-Amand, et qui fait un poème rimé et rythmé sur la calvitie, qui est vraiment extraordinaire, quoi. Du reste, pratiquement intraduisible en français contemporain, c'est absolument extraordinaire. Et d'un seul coup, on voit cette poésie latine du Moyen-Âge, du haut Moyen-Âge, 6e, 7e siècle, 8e siècle, qui d'un seul coup invente progressivement la rime dans la poésie française, qui va en être l'héritière. Et puis deuxième chose, là vous dites, et je pense que vous faisiez allusion aux rhétoriqueurs, aux grands rhétoriqueurs, qui sont ceux qui maîtrisent les rimes de façon extraordinaire. Eh bien, ces grands rhétoriqueurs, qui sont des gens du Nord, qui sont des gens de d'Èvre, d'Arras, de chez moi, de chez nous, en particulier Jean Molinet, qui est le plus célèbre de tous, qui est né à d'Èvre, ils pratiquent cette rime multiple, riche, intelligente, au moment même où les mêmes personnes pratiquent l'opération que les techniciens appellent le dérimage. Ils traduisent toutes les chansons de gestes et surtout tous les romans courtois, Chrétien de Troyes, ainsi de suite, en prose. Et je me demande, moi, justement, si cette précipitation vers la rime, ce retour de la rime, est annonciateur d'un retour à l'ordre rimé, ou au contraire, la preuve de quelque chose, un dernier feu d'artifice. Un dernier feu d'artifice avant quelque chose de totalement différent. Alors, bon.
C'est pas le retour à l'ordre rimé? Puisque l'ordre, ça va être une rime.
Le rap. Très pauvre. Le rap, alors ça,
c'est le retour à l'ordre rimé.
C'est pour glisser vers Jean-Pierre, qui a écrit contre le slam, contre le rap, non?
Tu as fait la distinction ou bien contre les deux? Rappeur.
Jean-Pierre.
Rappeur camembert et stabeur pompier. Oui, mais c'était dans le Sodome et Grammaire, qui était mon précédent livre. C'est en 2008. Ça m'avait valu d'ailleurs pas mal de courriers, comme on dit, et beaucoup d'appels à monter sur la scène avec les slameurs et les rappeurs.
Que tu as fait?
Ah oui, j'ai fait ça. Oui.
Mais pour moi, vous êtes un slameur.
Oui.
Ce que j'ai entendu hier, c'est...
Je le sais pas,
Mais la plupart des...
Je crois que sur mon nom, Verheggen, j'ai toujours dit que j'étais un Trouvert-Heggen. Et je me sens proche des Trouvères du Moyen-Âge, effectivement. Et c'est vrai qu'on en a parlé beaucoup avec Jacques, avec les enragés ariégeois. Arajois. Les enragés arajois, oui, c'est ça.
Ouais, absolument.
Et il y en a aussi en Belgique, puisqu'il y avait Watriquet de Couvin, qui était un fatraseur, lui. C'était assez intéressant. Donc, je me sens plus proche des gens du Moyen-Âge que de certains de mes contemporains dans la poésie écrite. Et même à des distances considérables. Et lorsque je commençais à être ce que je suis encore aujourd'hui, un détourneur de phrases toutes faites, je me souviens que ça m'avait valu les pires petites remarques cruelles. Du reste, il y a chez nous un poète comme Marcel Thierry, qui est connu pour un vers que dans toutes les écoles...
Toi qui pâlis au nom de Vancouver.
Toi qui pâlis au nom de Vancouver. Et j'avais fait « Toi qui restes couvert quand Marcel pâlit ». C'était déjà bien parti, quoi. Comme j'ai pu faire lors des avant-dernières législatives, dans les années 90, un détournement des écolos, qui avaient des grandes affiches énormes à Liège, eut indiqué « Votez vert, votez écolo ». Et j'en ai fait « Votez vert », comme le petit vert ici, « Votez alcoolo ». Et j'ai remarqué que ces détournements, ça ne plaisait pas tout le monde. Donc, il y avait toujours un affrontement. Mais je me suis posé pas tellement de questions sur de questions théoriques. C'est souvent par le jeu de mots que j'arrive à dire avancer théoriquement, quoi. Quand je dis, on me dit vous faites de la verbigération, oui, je dis je fais du verbigeregen. J'arrive toujours à retomber sur mes pattes avec le jeu de mots. Comme j'ai dit, engagez-vous dans le langagement. C'est ça qui est important. Qu'est-ce que vous faites par rapport à la langue de votre temps, hein, c'est-à-dire qui circule aujourd'hui. Comment vous la voyez, comment vous l'entendez. Et donc la question de l'oreille et de la voix, hein, le dernier petit bouquin que je suis en train de faire maintenant avec Bernadette Février s'appelle « Les agités du buccal ». Hein, il y avait bien ceux du bocal, donc on peut avoir ceux de la bouche. Nous sommes des agités du buccal, quoi, en fait. Hein, on a pris un peu comme en folie. Et donc, quand je lis, effectivement, j'ai toujours lu dans des situations de performance. Avec des groupes comme Polyphonics, où j'ai même lu avec Yoko Ono à l'époque, avec Mandiark disait très très bien.
Oui, bien sûr.
Ah, oui. Et dans des performances de ce que, comment il s'appelait, on disait dans la suite des beatniks, en fait, les beatniks ont été les premiers à faire des grandes manifestations orales. Hein, quand Ginsberg dit all, c'est magnifique. Hein, c'est magnifique. Oui, et puis on est déjà en dehors de la poésie que l'on. En vase clos, quoi, en fait. Hein. Donc, on est dans l'expansion, voilà.
Mais de toute façon, moi, ce qui me paraît évident, c'est même une banalité de dire ça, c'est que on est dans le retour de l'oral, de l'oralité, en poésie particulièrement. On ne peut pas y échapper véritablement. Et tous les poètes, d'ailleurs, sont en train de faire des progrès immenses, les uns et les autres. Ouais. Ils passent tous à l'oral. Alors là, c'est certainement un effet bénéfique, si je puis dire, rappeurs et des slameurs. Et ça les a vraiment perturbés quand même. Cela dit, tu citais, Mandiarg, qui ne paraît pas pourtant être un poète de l'oralité. Moi, j'ai entendu peut-être encore mieux André Duboucher lire. Et quand on lit la poésie d'André Duboucher, on a vraiment l'impression qu'il n'y a rien d'oral dans sa poésie. Et en vérité, c'était un lecteur exceptionnel. Donc là, peut-être que la poésie est en train de rejoindre l'oralité d'une certaine façon.
Et là, c'est un retour d'âge.
Oui, bien sûr. Mais moi, je pense que la conclusion à laquelle on était arrivé hier, enfin, conclusion provisoire, bien entendu, c'était de dire qu'on est dans un paysage d'une liberté absolue. C'est-à-dire qu'on a... Et ce qui me chagrine un tout petit peu, moi, dans le slam et dans le rap, c'est que j'y vois une sorte de refermeture, enfin, une sorte de refermement sur le syllabique rimé. Et alors qu'en fait, nous avons la possibilité de prendre toutes les prosodies possibles et imaginables, y compris des prosodies, des poésies étrangères. Moi, j'ai essayé de plaider vainement, semble-t-il, jusqu'à présent, pour le vers blanc, l'alexandrin blanc. Ah, il y a un très grand poète de l'alexandrin blanc, je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est Robert Marteau. C'est pas, il vient de mourir à l'instant dans l'invisibilité totale. Il est mort il y a un mois, pratiquement. Il a fait une série de poèmes qui s'appelle « Liturgie », au pluriel, publié chez Champvallon, et qui est une remarquable... des sonnets en vers blanc. Et c'est extraordinaire, quoi. D'un seul coup, le sonnet est déshabillé. Il est tout nu. Et quand on a enlevé la rime... Voilà, la rime me chiffonne un peu. Alors, c'est peut-être parce que je suis un vieux mec qui a connu le vers libre, qui s'est libéré, en quelque sorte, des contraintes classiques. C'est fort possible.
Mais c'est génial, le vers libre. Mais peut-être qu'il vaut mieux le lire. Hier, il y avait une soirée qui était dédiée à Édouard Glissant, avec des gens, très grands comédiens qui lisaient.
Denis Lavant, non?
Franchement, moi, j'ai rien suivi.
Oui.
Le sens s'évaporait. J'entendais plus que des sons. Une poésie comme celle d'Édouard Glissant, qui pour moi relève un peu de post-surréalisme, enfin qui part avec des images d'une grande complexité qui s'enchaînent. Ça me paraît difficile de l'entendre comme ça à un rythme de la parole. J'ai le sentiment qu'il faudrait qu'on me dise une phrase par minute.
Alors le paradoxe pour Édouard Glissant, je vous interromps et je vous redonne tout de suite la parole. Je suis d'accord avec votre sentiment, je pense que votre oreille est juste. J'ai toujours été frappé, moi, chez Édouard Glissant, par le mélange de Saint John Perse, pour qui il avait de l'admiration, Mallarmé, qui et sa poésie est étonnamment mallarméenne. Et je me dis, pour un Antillais, alors là, à côté d'autres poètes des Antilles ou de Haïti, il est très étrangement classique, mais hyper classique. Et il est en deçà, quoi. Il est en deçà de l'oralité. Et lui, qui était un penseur de grande stature, un prosateur remarquable, comme beaucoup de Français, enfin d'écrivains français, remarquable prosateur, en poésie, j'ai toujours trouvé qu'il était crispé, qu'il était presque trop mallarméen, trop timide en quelque sorte. Et moi, je rejoins votre sentiment là.
J'ai le sentiment qu'il y a des formes de poésie en vers libre d'une grande densité, ou même si on prend celui qui a supprimé l'orthographe, la ponctuation, pardon, dans la poésie apollinaire, où vous avez une richesse du vers, une polysémie qui vient du fait que vous puissiez associer un mot à celui qui suit ou à celui qui précède. Si vous lisez Apollinaire, vous avez dans une seule phrase 4-5 sens, significations possibles. À partir du moment où vous réalisez phonétiquement, où vous énoncez cette parole, elle est réduite. Elle est réduite dans le sens du locuteur, qui n'est peut-être pas celui de l'auditeur. Le message est brouillé. J'ai le sentiment, bref, qu'il y a une poésie orale qui a des codes. Et je le redis, donc ce serait le rythme et la rime, et une poésie qui serait peut-être une poésie pour l'œil, ou une poésie à lire tranquillement, une poésie d'une telle densité qu'il serait difficile de la faire passer, et donc existe en même temps des slameurs, des rappeurs, qui retrouvent peut-être des codes proches de la poésie du Moyen-Âge, qui sont là pour faire passer le son, pour le marteler, pour qu'il résonne, et peut-être une poésie qui est faite pour être lue, parce que en donner une réalisation phonétique, la réduirait à une interprétation possible.
Est-ce qu'on pourrait peut-être faire une petite pause, là, et puis passer à l'acte, en quelque sorte, et entendre, écouter. Souleymane, vous commencez ? Vous nous dites quelque chose ?
Tawon ko suka ala bomware ana yelo non bala ha duni hande sare ana yeya dole ana toro hare ko na ndan jada kala non laare e ko na yejo mongontani jango laarta manin so bu ko badda kala ko kan badantani so handa tinni ma kanyo na rajo ma jawdi sa wadani hayru ndan kanyo lo do yaade di labi sa hulani baba ma sa yurma kinene ma tinna non yejo ko na duna ma opu alo bana tore ma. Je ne suis qu'un pauvre artiste au service de la beauté. Les mots sont les vêtements de l'émotion, et même si nos stylos habillent bien nos phrases, peuvent-ils vraiment sauver nos frères du naufrage? Les poètes se cachent pour écrire, c'est pas une légende, mon ami, regarde-nous. On a traversé des rivières debout à la nage, on a dormi à jeun dans la neige, on est encore debout. Les poètes se cachent pour écrire, chacun purge sa pénombre, dans une solitude silencieuse que certains pourraient craindre. On somme les mots de s'additionner comme des nombres, la poésie opère comme une lumière mangeuse d'ombre. J'aime cet état, mais le temps qu'on passe à l'attendre n'est pas si tendre. Parfois, il faut presque s'éteindre pour l'atteindre. Versificateur notoire, chaque rime est une cascade. Dans les lieux oratoires, l'auditoire n'aime pas les phrases fades. Dans ma vie, j'ai écrit plus de textes que le reflet d'étoiles, le grand lac Tchad. J'ai cherché la vérité dans les lignes de chaque énigme, de chaque conte et de chaque charade. J'ai interrogé les bons médiums pour chasser les mauvais djinns, et j'ai répondu à Mini quand ma mère m'a dit Mbal en Hedjam. J'ai couru après les horizons sur chaque page, avec l'énergie des anciens possédés par le jazz, pour ne pas avoir à jouer à cache-cache avec le diable. Les poètes se cachent pour écrire, c'est pas une légende, mon ami, regarde-nous. Toi et moi, c'est l'écriture qui nous lie. C'est dans la solitude qu'on apprend la convivialité, tant pis pour celui qui le nie. Le feu passe au vert et l'oralité passe par nous. Le verbe est une clé indispensable dont on nous demande des mots de passe partout. Sache que les mots ne sont que des signes s'ils ne sont pas reliés. Nom Diamant K, prénom Souleymane, profession parolier.
Ça, c'est quasiment un art poétique, quoi. C'est une, voilà, c'est une autobiographie du poète, enfin, que, du parolier que vous êtes. Donc, avec des, j'ai retenu comme rime au départ, nos phrases, naufrage. Donc, vous jouez sur les mots. Vous jouez sur le mot, enfin, voilà. C'est pas une rime classique, enfin traditionnelle, quoi.
C'est proche en français de ce que j'ai récité avant, Paul, où les rimes aussi, les rimes internes.
Que j'ai, on a entendu tous, bien sûr.
Et en polonais, c'est.
Mais il y a les rimes finales aussi, dans celui que vous avez récité en Paul.
Mais que j'ai pioché dans le français, en fait.
Ah oui.
Oui.
Vous l'avez traduit? Vous l'avez écrit en français d'abord et traduit en Peul?
Non, je l'ai écrit directement en Peul, mais je l'ai écrit comme si j'écrivais en français. Je l'ai écrit avec la même métrique que mes textes français. Et j'ai appris par cœur un poème d'un ami à moi qui est d'origine polonaise, et je vois que lui aussi utilise la même métrique que sa manière d'écrire en français. Ça donne Spadam jak gwiazda z nieba, nie ma drugiego pióra, który tak papier przekreśla. Wiatrem i wichurą byłem, a jestem i będę prochem i pyłem. O co chodzi, o czym mowa, spierać, szukać, naleć, tracić słowa, jestem sekretem. Il m'a appris plein de poèmes comme ça en polonais, je lui ai appris plein de poèmes en peul, et je vois que dans sa manière d'écrire en français, c'est proche de sa langue natale. Les Polonais vivent dans le froid, ils ont souvent la bouche serrée. Du coup, dans ces textes, il y a beaucoup de tche, de tse, de tse. Et je vois que dans mes mots français, c'est proche de ma langue maternelle, où c'est plus des O, des A.
C'est ce que vous dites aussi, dans votre livre avec Yvon Lemaine, qui rejoint la formule de Deleuze, être étranger dans sa propre langue, ou le recueil qu'a écrit Suleiman, j'écris en français dans une langue étrangère.
Et les Polonais vivent dans le froid, mais ils se réchauffent drôlement bien avec la vodka. Hein. Et donc ça, c'est. Et on va s'adresser, si vous me permettez, ce jeu de mots. Bien sûr, la bise. On va s'adresser aux Polonais. Je me permets ce mot-là parce que c'est précisément ça ce qu'il fait lui-même. Il écrit lui-même. Polonais de service. Ben, t'as un micro, là. Si, il vaut mieux le prendre parce que c'est enregistré, figure-toi.
Le problème, c'est toujours de passer la page suivante.
Oui, mais c'est pas grave. On tolère un blanc dans un petit silence.
Ça ira.
Ça va?
Oui. Au fond, la question principale pour nous, c'est de savoir pourquoi et comment écrire grand nègre. Le contraire du petit nègre d'imitation parodique ou de nos régressions colonialistes. Avec nos propres sons, dans notre propre langue. Comment écrire à partir de ce trou chantourné dans le creux du plus cru de notre tour de Babel de Bruegelande? À partir, pour ce qui me concerne, de cette tour de Babelge, de ce trou cylindrique et bordélique foré au forcené dans mon babillaire foireux d'impéditant babelard. Oui, d'impéditant bavard. À partir de toute cette bavasse et mouille de mouillasse, de voyelles de vieille iconoclaste. Oui, qu'est-ce qui me prend? Et qu'est-ce qui se passe et pourquoi cette volonté, bien plus que cette audace, de crier, moi, en mon piaf hurlant au momo, Arto, 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 jeté dans la peau. Ou d'autres fois, j'en ai de toi, ras le bonbon, ras le bobo. Ou encore, en leur montrant mon paf et en leur signifiant à tous ces Arto, Bichot, Rimbouancy, je suis votre travelot, jeté dans la peau de vos mots, dans votre gluot de glus et glute de flutio, du cello, d'oiseau, uccelli, inferno. Je suis votre bibelot bouffon d'insanité sonore, votre grand corps charcuté. Je suis l'asticot qui vous bouffe le derche, qui vous boustifaille, le caquet du jacula et le caca de merde du zop cacatoès. Je suis l'enfant d'un inouï d'inhumé, l'enfant crouillat d'un tas de textes empruchés par je ne sais trop quoi, par l'embarras, sans doute la maladie, le deuil ou la mort et la folie, la folia, les caprices de Goya, l'ankylose ou l'ankylove et les voyages d'amour inachevés. Je suis votre nain mégalo, votre nabo de couille, votre hortensia de gloire ratiboisée, vos rêves de morveux, votre hystérie de morva, votre barbare de mazie en Asie. Oui, je suis votre barbare en zazie. Votre puante fille, Pidocchia la menteuse, ou Otella, la pure et la pire des jalousies, la pipeuse Otella, la suceuse, la schlingueuse Otella, celle qui vous pompe la barbaque et vous la recrache à la face, la strombola stronza, comme on dit stromboli, avec son cul en feu comme sangribas et son cuit, sans cesse au plus bas niveau des langues les plus basses. Mais je suis votre négresse scribouillasse, votre scripteuse main de singe, vous trifouillant la rosace du siège, votre racle cramouille et pile à foutre, qui elle aussi veut ses védas, soit ses putras, ses matras, ses brahmas, ses sastras, ses ramas, ses puranas, ses upanishads derrière pachis, accoulis de pagnates vieilles chattes et chagates de chagatanissi. pour que ma vie à moi commence elle aussi. Car je crois que pour vivre, je ne dis même pas que pour être, je dis que pour vivre, il faut d'abord juter, juter au sang de son sperme acré, pinder, piter, paler, plonter, sous le pressoir de l'oprimage, sous la pressure du libage, limer en outre un mucus bouché. Il faut s'en faire pour être né à la fin, et ne pas avoir peur d'en baver, oui d'en baver, d'en baver, oui d'en baver. Merci.
Victor Hugo avait le projet de coiffer le dictionnaire du bonnet phrygien, c'est ce qu'il dit lui-même. Je pense que Jean-Pierre Verhaeghen le déculotte, lui. Voilà, il est allé un peu plus... Il enlève le bas, en fait, là où Victor Hugo... Ça sent, effectivement. Julien, vous dites quelque chose ?
Oui, vous avez parlé de Jean Molinet, qui est un des grands rhétoriqueurs dont je trouve que les rappeurs se sont inconsciemment inspirés dans leurs rimes. Là, c'est une rime couronnée, donc deux fois le même son. C'est très court, c'est un petit quatrain. Je vais essayer de faire un petit battement de mesure.
Bien sûr.
Jean Molinet né. Bon, je le fais sans. Jean Molinet né. Sans bruit ni sans nom, non. Il a son son. Et comme tu vois, voix. Ça, mise en forme, avec un flow, une instru, ça pourrait être du rap, dans le sens où exercice de style accompli.
Bien sûr. Voilà. Nous sommes dans les temps. Nous sommes dans les temps.
Je peux me permettre de dire que je dédicace mon livre. J'en ai quelques-uns ici, si vous voulez.
Quel stand ?
Et c'est le stand numéro 17.
Parfait.
L'arme attend.
Merci à vous.
Merci beaucoup.